Vous écoutez
RMC.
Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des progrès, mais pas de compromis. L'accord de paix pour l'Ukraine attendra les émissaires américains. Envoyés en Russie n'ont pas convaincu Vladimir Poutine. La question des territoires occupés par Moscou en Ukraine demeure. La désunion du bloc central sur la question du budget. Le groupe Horizon d'Edouard Philippe s'oppose en l'état au vote du texte. Et l'ambition sans limite d'Isaac Hadjar, promu à seulement 21 ans chez Red Bull, l'une des meilleures écuries de Formule 1.
Pas de compromis, mais quelques progrès.
C'est ce que disent les États-Unis ce matin au lendemain de la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et une délégation d'émissaires américains. On retrouve à Washington pour RMC Antoine Hollard. On est encore loin ce matin, Antoine, d'un accord de paix pour l'Ukraine.
Oui, parce que ces 5 heures de discussion à Moscou n'ont pas permis de régler la question des territoires. C'est l'un des sujets les plus sensibles et on comprend que la Russie n'est pas prête à transiger. Elle exige toujours l'annexion complète du Donbass, y compris les zones que son armée ne contrôle pas actuellement. Alors aujourd'hui, Vitkov et Kushner doivent rencontrer Volodymyr Zelensky pour faire un compte-rendu de leur réunion au Kremlin. Après le niet des Russes, la question c'est de savoir si les Américains vont accentuer la pression sur Zelensky pour le forcer à faire des concessions et donner à Poutine ce qu'il veut afin que les combats s'arrêtent. Trump, en tout cas de son côté, semble lassé par ces discussions qui ne progressent pas vraiment. Il n'a toujours pas réagi aux maigres résultats que ses émissaires ont obtenus à Moscou.
Et de ce rendez-vous, on retiendra aussi cette phrase de Vladimir Poutine qui a jeté un froid en amont de cette rencontre. Il se dit prêt à faire la guerre si l'Europe le souhaite, même si cela n'est pas son intention. Ce sont les mots du chef du Kremlin. La guerre en Ukraine, le sujet sera sur la table des discussions entre Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping, soutien de Moscou. Le chef de l'État s'envole pour Pékin. Aujourd'hui, 3 jours de visite et la volonté pour l'Élysée d'apaiser les relations tendues entre les deux pays sur fond de tensions commerciales.
RMC 7h02. Avis de turbulence en Macronie.
En marge de la reprise de l'examen du budget de la sécurité sociale hier à l'Assemblée nationale, le bloc central se fragilise alors que Sébastien Lecornu continue de chercher des compromis avec les oppositions. Le Premier ministre se retrouve à devoir gérer une situation de fronde au sein de son propre camp, Romain Cluzel.
Et les députés Horizon annoncent la couleur. Avant même la fin des débats, ce budget de la sécurité sociale, ce sera sans eux, explique le patron du groupe, Paul Christophe.
Nous ne voyons pas comment voter favorablement le document qui est mis sur la table et que ça sortirait soit un vote contre, soit une abstention en fonction de l'évolution.
Une position que regrette son collègue de Renaissance, Pierre-Alexandre Anglade. Le Bloc central a déjà accepté la suspension de la réforme des retraites. Alors le député attend désormais un geste du PS.
J'attends de voir les compromis qui seraient ceux des socialistes dans la direction du Bloc central et du gouvernement. Parce qu'en réalité, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de compromis qui ont été faits de la part du Bloc central. Mais moi, je pense qu'il faut que nous soyons capables de forger ce compromis et de trouver une majorité dessus.
Les députés de droite, eux, ne savent pas encore s'ils voteront ou non. Le LR Jean-Didier Berger met en avant plusieurs conditions.
Par exemple, qu'il n'y ait pas d'augmentation de fiscalité supplémentaire. C'est le sujet notamment de la CSG patrimoniale. Nous ne voulons pas de fiscalisation supplémentaire dans le pays déjà le plus fiscalisé au monde. Et ça paraît bien légitime.
Et justement, cette question de la CSG sur le patrimoine sera au cœur des débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Et contre le budget faible mobilisation, hier dans la rue, un peu moins de 32 000 personnes ont répondu à l'appel des 3 syndicats. C'est 15 fois moins qu'en septembre dernier. L'éducation nationale secouée par un nouveau scandale à Limoges. Le directeur d'une école maternelle de 54 ans a été mis en examen et écroué pour détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique. Il est également soupçonné d'avoir eu recours à la prostitution de mineurs. L'annonce a surpris ses collègues sous le choc, Louis Salé.
Oui, d'après une source syndicale, la communauté éducative de l'établissement et les parents d'élèves sont sidérés, abasourdis par cette nouvelle. Personne n'avait le moindre soupçon concernant ce directeur. L'enseignant, âgé d'une 50aine d'années, était en poste depuis plus de 10 ans dans cette école maternelle. Il a évidemment été suspendu de ses fonctions par le rectorat qui se dit particulièrement attentif à la situation. Les faits pour lesquels cet homme est placé en détention provisoire ne seraient pas en lien direct avec son activité professionnelle, a précisé la procureure. Et selon une source proche de l'enquête, les faits de viol sur mineurs concerneraient un recours à la prostitution d'un garçon âgé de 13 ans.
La justice algérienne rend son verdict dans le procès en appel du journaliste sportif français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en juin dernier pour apologie du terrorisme. Son avocat espère une issue favorable à la faveur d'un apaisement des relations diplomatiques entre Paris et Alger.
À 3 semaines des fêtes, la saison des marchés de Noël s'est ouverte et ça ne plaît pas à tout le monde.
Vin chaud, raclette et idées cadeaux sur le papier. On est dans l'ambiance, mais cela peut virer au cauchemar, comme à Annecy, où les habitants de la vieille ville réunie en collectif ont décidé de monter au créneau contre l'installation de chalets installés sous leurs fenêtres, remontés contre les incivilités, les nuisances sonores aussi de ce marché en cœur de ville déjà assailli par les touristes. Reportage de notre correspondant sur place, Vincent Chevalier.
Depuis la rue, difficile de rater les banderoles accrochées au balcon par certains habitants, dont Anne-Sophie.
Une des banderoles, c'est le marché de Noël, le quartier à les boules.
Bruit, odeur, surtourisme pour cette membre de l'association des résidents de la vieille ville d'Annecy. Les lieux ne sont pas faits pour accueillir un tel événement et les nuisances sont trop nombreuses.
Nous avons évidemment des odeurs, des détritus qui s'amoncellent, notamment le long de l'église. Véritablement, on a le sentiment que la ville est un dépotoir à ciel ouvert.
Entre les écharpes et le vin chaud, le sujet divise même les visiteurs venus profiter des festivités.
Annecy, de toute façon, est envahie par les touristes. C'est blindé, tout le temps. Dans le centre, comme ça, je trouve ça plus chaleureux et plus cocooning.
La mairie le reconnaît, il y a des pistes d'amélioration, notamment sur le traitement des déchets, mais pas question de revenir en arrière pour Alexandre Mulatier-Gachet, premier adjoint en charge des grands événements.
Nous, ce qu'on voulait proposer, c'était l'esprit de Noël. Que ça reste festif, que ce soit pas non plus une boîte de nuit, que ce soit une musique qui soit non plus pas excessive. Après, effectivement, peut-être qu'ils auraient aimé qu'il n'y ait rien du tout. Et nous, c'est pas notre volonté, en tout cas.
Le marché de Noël est ouvert jusqu'au 4 janvier prochain.
La reprise de l'entraînement ce matin à Nice sous escorte policière, c'est la conséquence de violences subies par 2 joueurs. Dimanche soir, une enquête a été ouverte pour violences aggravées. Terem Moffi et Jérémy Boga, en arrêt de travail, ne veulent plus porter les couleurs du club. D'autres joueurs choqués ont demandé à partir au mercato d'hiver. Et l'entraîneur Francaise devrait annoncer son départ ce matin à son vestiaire.
Et puis changement de vitesse pour Isaac Hadjar.
Le jeune pilote tricolore rejoindra Red Bull l'année prochaine, promu aux côtés de Max Verstappen, quadruple champion du monde de Formule 1. Virginie Fulpa est avec nous ce matin. Il confirme à l'équipe avoir appris la nouvelle la semaine dernière. Rien de surprenant pour le Français de 21 ans, sûr de sa force après une seule saison au compteur et une ambition débordante.
Et son surnom de Petit Prost n'est pas usurpé. Isaac Hadjar, c'est de l'ambition et de la réflexion. Il a appris la semaine dernière qu'il allait rejoindre Red Bull. À 21 ans, il pourrait trembler, mais pas du tout. Si Red Bull estime que je suis prêt, c'est que je suis prêt. C'est aussi simple que ça. Isaac Hadjar n'aime pas la fausse modestie. Quand il fait le bilan de sa première saison en F1, il dit qu'il a fait du bon boulot. Et quand il est monté sur le podium du Grand Prix des Pays-Bas, pour lui, c'était le tournant, le moment où il s'est dit que les portes de Red Bull allaient s'ouvrir. Il n'arrive pas non plus en terrain conquis. Il faut être solide aux côtés de Max Verstappen. Le quadruple champion du monde a déjà eu 6 coéquipiers. Il les a éteints les uns après les autres. Et alors, ça fait pas peur à Isaac Hadjar. Il a toujours voulu se confronter au meilleur. Alors là, il va être servi. Le pilote français sait bien que Verstappen a de l'avance sur lui. Mais son but, c'est de se rapprocher petit à petit en observant, avec un objectif pour 2026, gagner un Grand Prix, un premier.
Et on lui souhaite de l'ambition aussi, il en faudra pour les Bleus du 15 de France. Fixés sur leur sort ce matin, tirage au sort des phases de poule pour la Coupe du Monde de rugby sera dans 2 ans. Les Bleus sont dans le chapeau. Hein. Il faudra éviter l'Australie, pays hôte de la compétition.
C'était le journal de Thibaut Texer. À 7h08, on part au 32-16. Vous êtes nombreux à réagir à cette étude sur le non-respect, tout simplement, du code de la route. Et c'est le témoignage de Maxime ce matin. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Maxime, vous êtes taxi en Loire-Atlantique. Vous êtes aux premières loges, j'allais dire, pour observer tout ça.
Ah bah oui, moi je roule tous les jours. Je fais à peu près je fais du scolaire, donc je fais pas autant de routes que les taxis normales.
Ouais.
Mais je fais à peu près entre 100 à 150 bornes par jour.
Ouais.
Et honnêtement, si je fais pas attention, je pense qu'il me faudrait passer 2 à 3 voitures par jour.
Ah. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'il faudrait changer de voiture, quoi, parce que parce qu'elle s'en prendrait.
Elle serait morte la voiture en fait. C'est entre les queues de poissons, les gens qui s'insèrent sans regarder, ceux qui forcent, qui respectent pas le code de la route, parce que forcément nous on a le droit par exemple de prendre les voies de bus. Au niveau des cédés de passage que les gens ont pour laisser passer les gens qui sont dans les voies de bus, 3/4 du temps les gens ne le respectent pas.
Oui, et alors attention, hein, ce que dit l'étude, c'est qu'il y a bien sûr les automobilistes, mais il y a aussi les piétons. 3 piétons sur 4 traversent, quoi qu'il arrive, même si le feu est pas le bon pour eux, quoi.
Ah bah, entre les piétons et j'ai fait un peu de ville, moi, avec ma trottinette, 3/4 du temps actuellement, je prends beaucoup de périphériques.
Ouais.
J'ai fait un peu de ville, là, j'ai pas mal de ville en ce moment, c'est un changement de trajet.
Vous êtes où? Vous êtes autour de quelle ville?
Alors moi, je fais du Rezé, Saint-Herblain et je vais principalement aussi dans Nantes.
D'accord, donc vous êtes autour de Nantes, quoi.
Voilà. Et honnêtement, dans Nantes même, quand je vais, moi, le jeudi dans Nantes même, si je ferais pas attention, je pense que je tuerais 3 ou 4 cyclistes par jour.
Ouais, ça. Ouais, il faut être dans une espèce d'attention permanente aux aguets, à la fois vis-à-vis des autres automobilistes, mais c'est vrai que désormais, on a quand même l'impression que, je cite, griller des feux, finalement, c'est devenu parfaitement normal, classique, et je le dis, hein, pour les automobilistes, mais aussi pour les piétons. Merci beaucoup, Maxime. On reviendra là-dessus, tiens, aussi, tout à l'heure, vous l'entendrez, avec Louis Sarkozy. Ne manquez pas sa chronique de droite. Ce sera à 7h50. Il est 7h10 sur RMC. Et on va revenir sur ces affrontements hier dans le Doubs entre des agriculteurs et des gendarmes présents en nombre. Bonjour Laurence Dionnet, vous êtes la porte-parole de la Confédération paysanne dans le département du Doubs. Vous étiez sur place, vous vouliez empêcher l'abattage du troupeau pourtant vacciné à cause d'une vache, seulement, qui était malade. Tout un troupeau qui a dû être décimé. Ça n'est pas le principe de précaution, dites-vous, mais c'est un principe de disproportion. Les agriculteurs désespérés et en colère, vous nous le dites dans un instant sur RMC. Il est 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 83 vaches. 83 vaches toutes vaccinées, une seule malade, et c'est tout le troupeau qui a dû être abattu. Tout cela s'est passé dans un cadre d'extrême tension et de violence. Des gaz lacrymogènes et des LBD utilisés contre les agriculteurs. Ils étaient nombreux à se mobiliser pour tenter de sauver ces vaches, en vain. Bonjour Laurence Lyonnais. Vous êtes la porte-parole de la Confédération paysanne dans le département du Doubs. Ça s'est donc passé hier à Pouillèze-Français dans le Doubs. Cette maladie, c'est la dermatose nodulaire. Je le répète, les vaches étaient pourtant vaccinées. Les agriculteurs s'opposaient au fait qu'elles soient abattues. Première question d'abord, le troupeau a bel et bien été abattu.
Des jeunes génisses et des petits veaux, hein, le dernier étant.
Je vous entends très mal, malheureusement. Laurence Lyonnais, allez-y, je vous écoute.
Des vaches, mais aussi des génisses et des petits veaux. Hein. Le dernier était né dans la nuit de dimanche à lundi.
On sent évidemment votre émotion. Vous étiez d'ailleurs sur place. Vous êtes la porte-parole de la Confédération paysanne. Cet abattage, il a donc été validé par le tribunal administratif de Besançon. C'est la loi. Mais vous estimez que ce principe, qui est soi-disant un principe de précaution, est en train de devenir dévoyé.
Oui, alors c'est la loi, c'est plutôt un règlement, et c'est la manière dont la France a choisi d'appliquer un règlement européen.
C'est-à-dire que le principe de précaution est en train de devenir un principe, dites-vous, de disproportion?
Bah oui, parce que les éleveurs ont respecté toutes les règles, ils ont fait tout ce qui leur avait été demandé. On nous a dit qu'il y aurait une immunité vaccinale à 28 jours. Donc toutes les règles sont basées sur ces 28 jours qui permettent à nouveau des mouvements sous contrôle, mais des mouvements d'animaux à partir de 28 jours. Là, on a des animaux qui étaient vaccinés depuis 38 jours. Les élevages autour étaient vaccinés également et on nous dit ça ne suffit toujours pas. Depuis 4 mois, nous vivons, pas 4 mois, 5 mois maintenant, depuis que la dermatose est arrivée en France dans les Savoies, on a des discours qui sont sans cesse revus pour justifier la manière dont la France, dont l'État français a décidé d'appliquer cette politique. Alors tout d'abord, ça allait s'arrêter en Savoie. Après, si ça s'est diffusé, c'est parce qu'il y a des agriculteurs, des éleveurs qui jouaient pas le jeu, qui étaient des délinquants. Et puis maintenant, quand on continue à dire ça ne fonctionne pas, la maladie continue à se diffuser, c'est une gestion en plus qui est absolument inhumaine, et ben c'est 175 gardes mobiles hier pour gazer les paysans, les paysannes, y compris les éleveurs eux-mêmes sur leur terrain devant le bâtiment où étaient leurs animaux. C'est juste inconcevable.
Parce qu'effectivement, ça s'est traduit par une extrême tension, des gaz lacrymogènes, des LBD utilisés contre les agriculteurs. Il y avait donc 200 gendarmes mobilisés, pratiquement un gendarme par agriculteur mobilisé, puisqu'il y avait 300 personnes en face. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez qu'on est dans un moment où ça explose, cette colère?
Ah oui, totalement. Alors, mais je veux dire, on était. Alors, certes, en colère, mais c'est notre colère d'éleveurs et d'éleveuses. Moi, je le suis aussi. Depuis le début de cette crise sanitaire, on se demande toutes les nuits Et si ça arrive chez moi, comment ça va se passer? Donc là, il y a une empathie, un mouvement de solidarité qu'on souhaitait exprimer. En attendant le résultat du référé au tribunal, on souhaitait entourer cette famille d'éleveurs parce que tout le monde s'identifie à eux, mais c'est pas juste les éleveurs, les éleveuses. Il y avait les gens du village, des villages alentours, des citoyens. Il y avait les jeunes du lycée agricole qui est juste à côté. Enfin, je veux dire, ça, c'est l'ensemble d'un tissu rural. C'est l'ensemble d'une communauté qui voulait entourer cette famille. Il y avait absolument on était déterminés, mais déterminé à accompagner l'éleveur et sa famille jusqu'au résultat du référé. Donc le passage en force, les intimidations, les coups de pression, les manifestants, on a réussi à se mettre, on a été pris, cueillis à 7h35, hein, ils ont envahi le terrain de la ferme, alors que l'arrêté ne prévoyait qu'une intervention à partir de 8h. Personne à la préfecture ne nous répondait sur la légalité.
Vous en appelez même à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
On est dans son département et Annie Genevard a fait la sourde oreille. Elle a même répondu au sénateur Longeau de notre département que ce n'était pas de son ressort. Alors, qui décide? Qui décide aujourd'hui en France? Qui décide de gazer des paysans et des paysannes qui veulent simplement défendre leur outil de travail et au-delà toute leur vie?
Parce qu'on le gaz lacrymogène et les LBD donc qui ont été utilisés contre les agriculteurs hier, on voulait entendre et comprendre effectivement ce qui s'était passé. Merci beaucoup Laurence Lyonnais, porte-parole de la Confédération paysanne dans le Doubs. Il est 7h19 sur RMC. Pendant ce temps-là, l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier, est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le célèbre Gaulois Astérix va partir s'installer chez les Germains.
Et oui, un parc Astérix va s'installer outre Rhin, c'est prévu pour dans 5 ans. Les rois des parcs d'attractions, Apolline, c'est pas les Américains, c'est les Européens, et ça fait 5 siècles que ça dure.
Vous allez nous le dire dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Ah oui. Il est 7h21 et on va remonter le temps sur RMC et RMC Story. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, on l'a appris hier, un parc Astérix va ouvrir en Allemagne, horizon 2030-2031. C'est un événement puisque pour la première fois, le parc Astérix s'exporte à l'étranger.
Oui, et si c'est en Allemagne, c'est pas un hasard, hein, puisque à part la France, l'Allemagne, c'est le pays où on vend le plus d'albums Astérix. C'est aussi évidemment un couronnement pour ce parc qui est le deuxième parc d'attractions français en fréquentation. 2,9 millions de visiteurs en 2024, juste derrière Disneyland Paris.
Ailleurs aussi, en Europe, on apprécie les parcs d'attractions.
Et oui, oui, on aime tellement ça, les parcs d'attractions, qu'on les a inventés, hein, puisque le premier parc d'attractions, c'était au Danemark en 1583. Donc
1583
ça date vraiment bien longtemps. Alors, on avait mis ça au milieu d'une forêt, et alors le concept était globalement le même qu'aujourd'hui, hein, mais dans une version un peu moyenâgeuse. Il y avait des artistes ambulants, des troubadours, des jongleurs. Cet endroit, ça s'appelle Bakken, et figurez-vous qu'aujourd'hui, 4 siècles plus tard, c'est toujours un parc d'attractions, vous pouvez y aller pendant vos vacances.
Extraordinaire, il n'y avait pas de grandes roues quand même.
Non, les grandes roues, c'est un peu plus tardif, et pour le coup, c'est une invention américaine, mais la France y est mêlée, je vous explique pourquoi. En 1893, Chicago accueille l'exposition universelle, et la ville voulait construire quelque chose d'aussi impressionnant que la Tour Eiffel qui venait d'être érigée à Paris. Donc les organisateurs ont une idée, une grande roue, elle faisait presque 100 mètres de diamètre, évidemment le public va adorer, et ça n'arrivera en France qu'en 1900 à Paris.
Les montagnes russes, ça date de quand?
Alors les montagnes russes, ça date du 18e siècle, et je ne vous étonnerai pas si je vous dis que ça vient de Russie, forcément. À l'origine, c'était des gigantesques toboggans recouverts de neige sur lesquels on faisait de la luge. Et au début du 19e siècle, l'armée russe occupe Paris puisqu'elle avait battu un certain Napoléon Bonaparte. Les soldats russes vont faire comme chez eux, ils installent des montagnes russes en plein Paris. Les Parisiens adorent, donc ça va rester. C'était dans le quartier de Belleville. Alors ça ressemble à quoi? Des très grands toboggans en bois avec des chariots pour les dévaler. Oui, il fallait qu'on fasse sans la neige, hein, évidemment.
Quand est-ce que les premiers vrais parcs d'attractions à proprement parler apparaissent avec des manèges?
Alors ça arrive ça dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les fêtes foraines envahissent nos villes. Elles se déplacent un peu partout. En France, le plus vieux parc d'attractions, c'est le jardin d'acclimatation. Ça date de 1860, alors à l'origine c'était un petit zoo, et petit à petit on a ajouté des manèges et des attractions pour les enfants.
Et aujourd'hui, quels sont les plus grands parcs du monde?
Alors, en superficie, c'est le Walt Disney Resort en Floride, dans la ville d'Orlando. Mais en nombre de manèges, c'est un parc dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Ça s'appelle le Cedar Point. Et si on prend le classement des meilleurs parcs, c'est Europa Park, qui est justement un parc allemand. En 2024, il a reçu le Golden Ticket Award, hein, c'est l'équivalent des Oscars pour les parcs d'attractions. Et c'était la neuvième fois qu'il recevait ce prix.
Et désormais, donc, on va aller les concurrencer sur leur terrain.
Exactement,
avec notre Astérix. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Il est 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour. Salut Arnaud.
Bonjour.
Arnaud, mon invité ce matin, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Ouais, dépêche Maud. Allez, parce qu'elle n'est pas encore arrivée.
Wow.
Ouais, un jeu de mots de ouf. Ouais, on attaque avec du solide. Elle n'a pas un boulot facile, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, la pauvrette. La petite Maud. Son rôle, c'est de mettre en valeur les décisions du gouvernement le plus pété du quinquennat, le plus pété de toute la 5ème République. C'est pas facile à vendre à la presse, hein. Je sais pas ce qu'elle va vous dire. C'est comme être un vendeur de voitures, mais n'avoir que des Fiat Multipla à refourguer. Cette là, je vous jure, elle est super. Ah, c'est un peu moche quand même, c'est atypique. Il faut le voir avec un œil neuf. Non, si elle doit vendre des trucs péras avec un grand sourire, faudrait la remplacer par le patron du BHV, Frédéric Merlin, lui c'est père. Salut les fouilles merde. Au gouvernement, on a à cœur de prendre soin au maximum des ploucs, descendants et des villageois. Alors bien sûr, il est dramatique que les provinciaux et les ouvriers soient illettrés. Heureusement, ça leur fait un atout, car ils ne savent pas compter non plus. C'est ainsi que nous composons notre budget. Alors Apo, tu peux m'interroger, je m'en fous, on fera ce qu'on veut. Et si les gens protestent, les CRS sont mieux nourris et courent plus vite. Lui, il est plus tonique.
Non, c'est vrai que c'est vendeur.
Le gros dossier, c'est le budget. Le gouvernement n'a pas de budget. Comme nous, ça nous fait un point commun. Pour Noël, on n'a pas de budget non plus.
Non,
très bien, mes nièces. J'espère que vous aimez les oranges, les filles. Sur la sécurité sociale, Maud Bréjon a supervisé plusieurs travaux parlementaires. C'est Maud et travaux. Oh, elle est excellente, une deuxième fois. Et elle a prévenu, sans budget, le déficit atteindra 30 milliards d'euros en 2026. Et elle a même ajouté discrètement, à 30 milliards de déficit, chaque Français devra vendre un rein pour éventuellement pouvoir soigner ceux qui restent. Qui a dit qu'on n'avait pas de solution dans ce pays? Alors Maud Bréjon souhaite aussi que la droite et le centre aient un candidat unique à l'élection présidentielle de 2027. Bonne chance! Édouard Philippe déteste Attal, qui déteste Retailleau, qui déteste Bayrou, qui déteste Braun-Privet, qui déteste Darmanin. Et à la fin de la chaîne, les Français les détestent tous globalement. Mais j'ai une piste. Apolline, il y a un Alain Duhamel qui sommeille en moi.
Oh, j'aime.
Il y a un homme que les Français ne détestent pas. C'est Stanislas Guérini. Personne ne le déteste parce que tout le monde l'a oublié. Donc lui, il peut aller voir Macron.
Non, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai décidé de me présenter à la présidentielle.
Qui êtes-vous, monsieur?
Ben Stanislas Guérini.
Écoutez, un peu de sang neuf, ça fera pas de mal.
Bah, j'ai été votre ministre pendant 10 ans quand même.
Ah bon?
Mais non.
Mais en France, chez moi, vous me faites une blague. Sortez les caméras, allez, c'est un prank TikTok. Ah, je crois qu'elle arrive. Ouais, je crois qu'elle arrive. Ah. Le défilé de Maud a commencé dans les couloirs. Oh, troisième. Allez, à tout à l'heure.
C'était Arnaud de Manche, il est 7h27. Et c'est l'heure. C'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer et de vous faire passer un fabuleux Noël grâce à RMC. Venez donc ouvrir le calendrier de l'Avent avec nous ce matin. Journée spéciale high-tech, nouvelle technologie. On va avoir des cadeaux de folie cachés dans le calendrier de l'Avent. Il y a gagné des télés, des MacBook Air, des iPhones, des montres connectées. Pour jouer, c'est tout de suite. Vous envoyez Noël au 7-32-16. Noël au 7-32-16. On est très, très, très heureux de vous gâter. Et le gagnant sera en direct avec nous à 8h20. Bonne chance à tous. 7h27.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le code de la route, une option pour beaucoup d'automobilistes, cyclistes et même piétons. Des piétons qui sont 70% à ne pas respecter les feux rouges. Le sondage sur l'antisémitisme à l'université enterré après avoir créé la polémique. Et puis le 15 de France connaîtra ce matin ses 3 premiers adversaires pour le prochain mondial de 2027. c'est la jungle sur la route. Vous le constatez forcément, peut-être même en ce moment, si vous nous écoutez depuis votre voiture. Et ça se confirme avec ce nouveau baromètre de la Fondation Vinci Autoroute. Nombreux sont les usagers à prendre des libertés avec le code de la route et notamment avec le respect des feux rouges. 40% des cyclistes les grillent régulièrement et ça monte même à 70% chez les piétons. Amélie Courtet l'a constaté pour RMC en plein cœur de Paris, près de l'Hôtel de Ville, où la circulation est cauchemardesque.
Oui, ici, même quand le feu des piétons passe au vert...
Non, on peut pas traverser. Non.
Marie-Hélène rattrape sa mère par le bras. Un vélo vient de passer devant elle à pleine vitesse.
Après, maintenant, il y a un vélo qui arrive de l'autre côté.
Vous faites hyper attention.
Bah, je fais attention, d'autant plus quand on est avec une personne âgée qui a des soucis pour marcher. C'est trop dangereux pour elle.
De leur côté, les cyclistes pilent, klaxonnent, slalomment entre les piétons. Le danger, ils en ont conscience.
Faut être vigilant. En vélo, non, je fais attention.
Et se justifient pourtant de griller le feu rouge.
S'il y a personne, j'ai passé.
Comme je suis à la bourre.
C'est une voie droite, donc en fait, de freiner 10 fois sur la même voie.
Ouais, bon, les piétons non plus respectent pas non plus à 100% les feux.
Les piétons sont même plus nombreux à passer au feu rouge.
Les piétons sont carrément au bord de la route. C'est n'importe quoi. Et là, ça traverse. Voilà. Tranquille.
Merwan, chauffeur VTC, sourit nerveusement, mais cyclistes comme piétons, leur mauvaise habitude l'agace.
Le feu passe au vert, mais ça vous donne pas la possibilité d'avancer. Faut que vous continuez à vérifier vos rétros, les angles morts, voir s'il n'y a pas un cycliste qui passe ou un piéton qui va se mettre à courir. C'est anxiogène.
À tel point que lui a décidé de modifier ses horaires, il travaille de nuit pour circuler plus apaisé.
Et puis du nouveau dans l'affaire des airbags défectueux Takata avec cette nouvelle action collective déposée aujourd'hui par l'association de consommateurs CLCV qui va représenter 150 propriétaires de véhicules Stellantis selon les informations du journal Le Parisien. L'UFC que Choisir avait fait de même pendant l'été. Il est 7h33 sur RMC et ils font souvent la une de l'actualité. Les cas d'antisémitisme à l'université se multiplient en France depuis le 7 octobre 2023, mais ils restent très difficiles à mesurer objectivement, et on n'y verra pas plus clair puisque le sondage commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur a finalement été retiré. Décision prise par l'IFOP et par le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, Romain Houg, après une levée de bouclier sur la méthodologie du sondage.
Oui, c'est un sondage qui prenait la forme d'un questionnaire en ligne de 44 pages dans lequel on demandait aux personnes au personnel des universités de classer certaines opinions ou stéréotypes que l'on entend parfois à propos des Juifs, de tout à fait vrai à tout à fait fausse. Mais le problème, c'est que les répondants devaient aussi préciser leur âge, genre, région, type d'établissement, fonction, et de se classer sur le spectre politique, des données qui permettent d'identifier ceux qui ont répondu et donc de rompre avec le principe d'anonymat, dénonce notamment la Ligue des droits de l'homme et 6 enseignants-chercheurs qui ont déposé un recours vendredi devant le Conseil d'État demandant d'interrompre la réalisation de ce sondage. Sondage finalement interrompu directement par les organismes qui en avaient la charge, le CEVIPOF et l'IFOP, face au tollé suscité dans les universités. Les conditions de sérénité et donc de participation suffisantes n'étaient plus réunies, peut-on lire dans ce communiqué.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Près de 5 heures de discussion, des échanges constructifs selon Washington, mais toujours aucun compromis obtenu de Vladimir Poutine sur les territoires occupés en Ukraine. Les États-Unis n'ont pas obtenu grand-chose de leur passage à Moscou. Emmanuel Macron, lui, se rend en Chine pour une visite d'État de 3 jours et les défis qui l'attendent sont nombreux. Hélène Terzian du service politique d'RMC. L'objectif du président, c'est de refluidifier les relations entre les deux pays.
Oui, et les Chinois soignent la scénographie. Visite de la cité interdite, accueil au palais du peuple. Puis Emmanuel Macron et Xi Jinping iront ensemble dans la province du Sichuan. L'Élysée y voit une marque particulière d'attention. De quoi favoriser les échanges sur le fond, sur les relations commerciales d'abord. Emmanuel Macron, flanqué de 35 patrons de Veolia, Airbus, Danone, vient signer des contrats. Il compte aussi inciter les investissements chinois en France, tout en clarifiant les règles du jeu, insiste son entourage, pour lutter contre la concurrence déloyale. Il faut que l'Europe soit respectée, dit-on, comme grand partenaire de la Chine. Il sera aussi question de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron attend du président chinois qu'il joue son rôle, celui d'intermédiaire auprès de Moscou, pour convaincre Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu.
Il est 7h35 sur RMC. C'est ce matin que le 15 de France va connaître ses premiers adversaires pour le Mondial 2027 en Australie. Tirage au sort à 10h, mais après une tournée de novembre plutôt mitigée. Où en sont vraiment les Bleus, Pierre Thévenet?
Oui, après le dernier match de la tournée gagné face à l'Australie, l'analyse de Fabien Galthié était claire. Je cite, on n'est pas au même niveau qu'il y a 4 ans, il y avait quelque chose de plus solide, de plus homogène. Sans s'alarmer, le sélectionneur concède que les Bleus ont du travail pour rattraper l'Afrique du Sud, meilleure nation du monde. Constat partagé par le consultant rugby pour RMC Sport, Yann Delegue.
Effectivement, on n'a pas cette impression de puissance que dégageait cette équipe de France, notamment l'année dernière encore.
Pas de raison non plus de s'inquiéter pour l'ancienne internationale.
On peut encore faire très mal. Maintenant, effectivement, il va falloir faire un bon tournoi. Et puis il va falloir commencer à se mettre dans la tête que la Coupe du Monde va vite arriver. Je crois qu'il doit rester une quinzaine de matchs, ça va très très vite. J'ai l'impression qu'on a quitté la Coupe du Monde précédente, mais qu'on est encore dans les regrets de celle-ci et qu'on n'a pas vraiment mis l'objectif sur 2027. Et il est le temps de le faire maintenant.
Avec 2 victoires en novembre, le 15 de France s'est quand même assuré un statut de tête de série. L'Écosse et l'Australie seront les équipes à éviter tout à l'heure lors du tirage au sort effectué à Sydney à partir de 10h, heure française.
À Nice, la reprise de l'entraînement s'annonce tendue avec 2 joueurs qui manqueront à l'appel, ce violemment pris à partie par leurs supporters dimanche soir. Le reste du groupe devrait se voir annoncer le départ de leur entraîneur Franck Hez après les échauffourées qui ont poussé d'ailleurs le procureur de la République à ouvrir une enquête pour violence aggravée.
Et puis le quintet, c'est aujourd'hui à Vincennes.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Jablonski. L'outsider, c'est le 8, Diva del Ronco.
C'était le journal d'Élise Dangean. 7h37, vous êtes nombreux à témoigner du code de la route qui n'est pas respecté. C'est la jungle sur la route. Et vous êtes nombreux à nous le dire ce matin, parfois même au volant. Bonjour Guillaume.
Bonjour Apolline.
Guillaume, qui est donc conducteur de bus en Haute-Garonne, peut-être au volant là d'ailleurs.
Oui, là je suis à l'arrêt pour l'instant.
Ah, tout va bien, parce que justement, précisément, vous vouliez l'illustrer, cette difficulté à respecter le code de la route. Vous faites comment, vous, au quotidien? Vous observez quoi?
Alors, comme je disais par message, moi je suis à la fois conducteur scolaire et conducteur urbain.
Ouais.
Deux fléaux que je constate quotidiennement, quand je suis en scolaire, c'est... moi je conduis un véhicule de plus de 13 mètres. Je rencontre tous les jours des gens dans les ronds-points qui veulent tenter de me passer par l'intérieur. Ouais. Vous savez bien que quand avec un car on s'engage, faut prendre de la profondeur, tout ça, je prends de la place.
Ouais.
Bah, j'ai toujours un petit malin qui veut essayer de me prendre l'extérieur et donc du coup, bah, je le manque de le taper. C'est toujours ça. Et
donc, vous devez faire hyper gaffe tous les jours là-dessus.
Ah, tous les jours. Vigilance sur les angles morts et tout, c'est infernal. Et le deuxième point par rapport à l'auditeur précédent que vous aviez eu, lui qui citait des cyclistes, le truc que je rencontre moi quand je fais l'urbain, ce sont les piétons. Les piétons qui traversent la route alors qu'ils ont un passage clouté à environ 1 mètre 2.
C'est exactement ce qui ressort, c'est que les piétons eux-mêmes ne respectent absolument pas. C'est-à-dire, vous avez beau avoir un feu rouge, ils traversent quoi qu'il arrive. Et donc c'est une difficulté supplémentaire. En fait, on sent que le code de la route, c'est quasiment devenu optionnel pour une partie des Français. Merci Guillaume pour votre témoignage. Et comme Guillaume, vous n'hésitez pas, vous allez voir aussi d'ailleurs dans 15 minutes maintenant, vous entendrez les solutions assez radicales de Louis Sarkozy sur ce sujet du code de la route. Donc ce sera à 7h50. Pour l'heure, il est 7h39. Et on va revenir dans un instant sur ce grand paradoxe. La France ne fait plus de bébés, mais en même temps ne veut pas forcément payer. La pyramide des âges qui est en train de s'inverser. Est-ce qu'il faudra travailler plus longtemps, augmenter la TVA, ne plus faire de bébés? Eh bien, ça commence à nous coûter très cher. Bonjour David Duhamel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste de la démographie. La Cour des comptes qui alerte sur ce vieillissement de la population. Je vous pose la question dans un instant de ses conséquences. Il est 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h43 sur RMC et RMC Story. On ne fait plus de bébés et ça commence à nous coûter très cher. Est-il encore possible de conserver notre modèle social tant que la population continue de vieillir? Je vous pose la question, David Duhamel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, enseignant à Sciences Po et auteur de cet ouvrage qui s'appelle « Un monde sans enfants ». C'est aux éditions Buchet-Chastel. Ce monde sans enfants, il commence à alerter y compris les pouvoirs publics et les finances publiques. La Cour des comptes dit qu'on ne peut pas continuer à avoir notre modèle social, mais dans une population vieillissante. Ça n'est plus tenable.
Alors, c'est compliqué, en effet. Alors, mon livre, vous l'avez dit, c'est un monde sans enfants. Donc, la France fait partie du monde. Il faut comprendre que c'est un truc mondial, d'abord. Et la France est plutôt mieux placée que les autres pays. Donc, il faut quand même pas rentrer dans le catastrophisme. Ensuite, la Cour des comptes dit un certain nombre de choses qui sont toutes vraies et intéressantes. Premièrement, elle dit on s'est pas occupé de la crise démographique.
Et pourtant, franchement, c'est quelque chose qu'on peut anticiper et qu'on peut voir venir.
Oui, alors on peut anticiper, mais elle dit aussi, attention, ça va plus vite que prévu. Et effectivement, ça va plus vite que prévu. Et moi, je pense que ça va aller encore plus vite.
Ça veut dire quoi, encore plus vite?
Par exemple, l'INED, il y a quelques années, a dit en 2027, le solde naturel devrait devenir négatif. On devrait avoir plus de morts que de naissances.
Ça y est, c'est fait, depuis cet été.
C'est ça. C'est venu 2 ans plus tôt. Donc de même, je pense que le taux de fécondité des femmes descend un peu chaque année. On est passé de 2 à 1,6 en 15 ans, donc moins 20% en 15 ans. C'est beaucoup, mais il y a des pays qui ont fait bien pire. Mais je pense que ça va continuer à diminuer.
C'est-à-dire moins d'un enfant par... On pourrait passer à moins d'un enfant par femme?
En France, non, je pense pas, ça va prendre... Non.
On est aujourd'hui à 1,6.
1,6, hein. Mais si on passe à 1,5, 1,4, 1,3, vous voyez, l'Espagne est à 1,1, la Pologne est à 1, l'Italie, ça change tout, hein. Donc, et tout ça...
Ça change tout, mais sauf qu'on n'en a pas tiré les conséquences. C'est-à-dire que concrètement, notre modèle social continue à prétendre qu'il peut tenir sur une pyramide qui avait encore une forme de pyramide, alors qu'elle est en train de se transformer, cette pyramide, elle a le sommet en bas, quoi.
Oui, c'est ce qu'on appelle ça. Ça prend une forme de cercueil, ce qui n'est pas hyper joli.
Non, c'est pas très joli de le dire comme ça, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Alors effectivement, le modèle social français est vraiment sous tension parce qu'il est très dépendant de la démographie. De ce point de vue-là, plus de personnes âgées, moins d'enfants, moins d'actifs, ça fait moins de recettes, plus de dépenses et moins d'innovation. Donc pour l'économie, c'est pas du tout une bonne équation et c'est pas soutenable.
Quelles sont les solutions? Travailler plus longtemps? Travailler plus?
Travailler plus.
Ou alors renoncer à ce modèle social. C'est-à-dire que ça aurait pu être aussi une option.
Alors,
de dire on n'a pas les moyens, on le fait plus.
En fait, par exemple, la Cour des comptes dit attention, c'est terrible, en 2070, on va avoir 30% de plus de 65 ans. Le Japon, ils sont à 30% aujourd'hui. Le Japon n'a pas vraiment de problème de financement parce qu'ils ont un système très différent. Donc les solutions économiques existent. Effectivement, il faut probablement partir à la retraite plus tard, faire en sorte que il y a un taux d'emploi supérieur, c'est-à-dire que notamment les plus âgés, les 55, 60, 60, 65, 65, 70 travaillent davantage, ça c'est certain. Il y a un gros effort de pédagogie pour expliquer à la jeune génération qu'en fait c'est dans son intérêt que l'âge de la retraite augmente, parce que sinon elle va passer sa vie à cotiser pour des personnes âgées de plus en plus nombreuses.
On part à quel âge à la retraite au Japon?
L'âge effectif c'est 71 ans.
71 ans.
Voilà. Et on vit 85 ans. En France, on vit 83 ans, mais on part à la retraite effective, c'est vers 62, 63 ans. Donc c'est en France qu'on vit le plus longtemps à la retraite.
On avait Emmanuel Macron qui avait lancé un très grand réarmement démographique, un plan de réarmement démographique avec un plan fertilité. C'était il y a 2 ans. Est-ce que ces grandes annonces ont été transformées en quelques faits que ce soit?
Alors, Il y a plein de choses dans ce que vous dites. D'abord, les annonces étaient des annonces un peu politiciennes, un peu malheureuses. Le mot réarmement est malheureux. Ensuite, ce que peut faire le politique, c'est pas évident. Il peut agir du côté des retraites, ça c'est important, mais pour faire augmenter le nombre de naissances, ça c'est très compliqué. Et on le voit parce que tous les pays du monde quasiment sont confrontés à ce problème. En tous les cas, 2/3 des pays font pas assez d'enfants pour renouveler leur population. 2/3. Et 25% des pays perdent de la population.
Mais le plan fertilité, par exemple.
Le plan fertilité, c'est une chose, mais par exemple, il y a cette idée de congé de naissance. Ça, qui permettrait une entrée plus facile des hommes dans la parentalité, qui leur ferait faire plus de parts de boulot. Ça, c'est essentiel. Alors, c'est pas encore mis en œuvre.
Ce serait en œuvre au 1er janvier 2027. Tout ça met un temps fou.
Ah, c'est vrai que c'est long. Moi, je suis très sensible à aussi l'importance de la technologie sur les comportements des jeunes et donc on le voit sur leur sociabilité aujourd'hui et sur leur sexualité et leur fécondité
demain.
Parce
que quand même à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'enfant.
Voilà.
Et faut quand même dire
les
choses.
On sait que l'écosystème numérique est extrêmement délétère et donc les jeunes qui ont grandi avec ça et qui n'ont pas commencé à faire leurs enfants vont sans doute en faire beaucoup moins. Et on voit qu'il y a certains gouvernements qui se saisissent de cette question. Par exemple, l'Australie vient de dire pas de réseaux sociaux avant 16 ans. Ça va être
je n'aurais jamais imaginé le lien de causalité entre l'interdiction.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme. Par exemple, l'INED a sorti une étude là, disant le désir d'enfant reste supérieur à 2,1 le nombre d'enfants pour le remplacement, mais pas chez les jeunes. Les jeunes déjà disent on en veut 1,9. Donc ça indique qu'ils vont en avoir vraiment pas beaucoup. Et quand on leur demande mais pourquoi, ils disent l'anxiété. Anxiété géopolitique, économique, climatique. On comprend bien ce qu'ils veulent dire. Mais derrière ça, il y a l'anxiété technologique, c'est-à-dire que le mode d'information des jeunes, c'est le téléphone portable, et le téléphone portable, les réseaux sociaux, c'est une machine à choper votre attention en vous rendant anxieux et en vous rendant
en colère. En fait, on a intérêt à ce que vous soyez anxieux, parce que plus vous êtes anxieux, plus vous allez aller chercher effectivement du contenu extrême.
Et c'est monétisé. Directement.
En fait, c'est capitaliste presque.
Exactement. Or, ce qui se passe maintenant, c'est qu'un garçon de 13 ans qui ouvre un compte TikTok, il lui faut 10 minutes pour avoir du contenu masculiniste. Et une jeune femme, elle va avoir du contenu progressiste. Et donc, ce qui est maintenant de plus en plus difficile, c'est la concorde dans le cercle hétérosexuel, qui reste très dominant, entre jeunes hommes et jeunes femmes. Moi, dans mes classes, tous mes étudiants, j'enseigne aux étrangers, tous mes étudiants me disent, ça devient très compliqué entre jeunes hommes et jeunes femmes. J'ai une classe en ce moment à Sciences Po de démographie, entre 40 et 50% de ma classe a dit, nous, on ne veut pas d'enfants. C'est gigantesque. 40 ou 50. Alors, ils peuvent changer d'avis, ils sont pas représentatifs de leur pays d'origine, ils sont plus riches, plus privilégiés, tout. Mais ils ont tout pour eux, et pourtant, ils disent, a priori, pour moi, pas d'enfants. Donc, je pense qu'on est à la veille d'un changement sociétal énorme. Et donc, ce 1,6 sur lequel on se lamente, on va vite le regretter, je le crains.
Et donc, il faudra prendre forcément des décisions économiques assez radicales. Merci beaucoup, David Duhamel. Vous êtes économiste, auteur de ce livre, Un monde sans enfants, aux éditions Buchet-Chastel. Je poserai aussi la question tout à l'heure à la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, parce que c'est aussi l'un des symptômes de la politique, avoir fait des grandes annonces, avoir très peu de réalisations concrètes sur cette question de la démographie également. Il est 7h50 sur RMC et dans un instant, Louis Sarkozy va réagir à ce constat, le code de la route, c'est en train de devenir optionnel, Louis.
Oui, bonjour Apolline, ça risque de vous surprendre, mais je plaide pour une immense simplification de la signalisation. Supprimons les feux rouges et les lignes blanches.
Ah oui, il va falloir que vous m'expliquiez. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, juste avant de retrouver Louis Sarkozy, vous nous parlez de cette étude sur l'espérance de vie des chanteurs.
Oui, une étude qui s'adresse aux chanteurs, aux artistes en quête de célébrité. Une étude allemande qui nous apprend que les chanteurs devenus très connus ont un risque de décès prématuré plus important que des musiciens moins connus. Et dans la minute qui vient, c'est rare de le préciser, Apolline, vous n'entendrez que des artistes morts. Les célébrités meurent 4 à 5 ans plus tôt en moyenne. Ce n'est pas la musique qui joue, évidemment. Ce serait même plutôt bon pour la santé, mais le sur-risque viendrait bien de la notoriété. Pression médiatique, stress, perte totale de vie privée. On meurt moins tôt aussi quand on joue dans un groupe. Les groupes, c'est mieux que les carrières solo. Il faut aussi ajouter les modes de vie. Évidemment, les stars du rock ont pu avoir quelques comportements à risque ou quelques épisodes dépressifs. Les spécialistes comparent l'impact potentiel de la célébrité à celui du tabagisme, ce qui relativise un peu la supposée vie dorée associée à la notoriété.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Et c'est la voix de droite ce matin avec vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour
plus
Apolline.
Personne ne respecte le code de la route. Une étude de la Fondation Vinci Autoroute que l'on vous révèle ce matin montre que 70% des piétons et 40% des cyclistes traversent au feu rouge, que 58% des automobilistes n'utilisent pas leur clignotant. Et ça vous fait réagir, Louis.
Oui, la solution ici comme ailleurs, Apolline, c'est plus et pas moins de liberté. Ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Je plaide pour une immense simplification de nos routes, supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation. En bref, rendre le citoyen responsable de sa propre conduite au lieu qu'il la délègue intégralement au code de la route.
Non mais attendez, ça va être la jungle, Louis Sarkozy. Vous soutenez vraiment la suppression de toute signalisation?
Du moins, Apolline, sa grosse et sa simple simplification. Ce concept s'appelle les Naked Roads, les routes nues, inventées par l'ingénieur néerlandais Hans Mondermann. L'idée est très simple. Regardez l'enquête que vous avez citée. 95% des usagers de la route ont peur du comportement des autres. Les routes nues utilisent précisément cette peur. Quand il n'y a ni trottoir, ni feu rouge, ni ligne blanche, tout le monde fait davantage attention. Les citoyens se responsabilisent et s'installe alors ce que les chercheurs appellent une négociation implicite entre usagers. Ils deviennent deux, voire trois fois plus prudents.
Ça a déjà été testé en conditions réelles, je veux dire?
Oui, oui, et les résultats sont parfaitement stupéfiants. Dans sa ville pilote de Drachten aux Pays-Bas, on a constaté une réduction de 40% des accidents de la route. Le carrefour principal est passé de 8 accidents graves par an à un seul. À Londres, figurez-vous, sur Kensington High Street, la simplification de la signalisation a mené une baisse de 44% des accidents en 3 ans. Et la ville allemande de Bomteil aussi réduit de moitié ses accidents annuels. Les conclusions sont tout simplement frappantes. Quand vous responsabilisez les gens, ils deviennent naturellement plus lents, plus attentifs et plus généreux entre eux.
Alors j'imagine quand même qu'il y a aussi des mauvais côtés, non, à ces naked roads, comme vous dites.
Oui, eh bien, il semblerait que le seul véritable problème, comme vous le dites, c'est qu'elle fonctionne moins bien pour les personnes âgées et les personnes malvoyantes. Mais c'est à peu près tout. Notons que la fluidité du trafic n'est pas affectée par ces réformes. Et d'ailleurs, la vitesse moyenne baisse malgré l'absence de limitation explicite. C'est exactement l'inverse de l'autoritarisme bureaucratique parisien. On augmente la liberté et on observe une amélioration du comportement.
Est-ce que vous plaidez pour qu'on implante ça en France, pour de vrai, je veux dire?
Oui, pour de vrai, absolument, au moins dans des zones d'essai. Commençons petit et voyons ce que cela donne. Mais je suis déjà convaincu du résultat. Quand vous faites confiance aux Français, quand vous les traitez comme des adultes et des êtres libres, ils vous renvoient cette confiance et davantage encore, les individus sont les meilleurs garants de leur propre sûreté.
Meilleur que l'État, que les étatistes, vous voulez dire?
Là, vous avez parfaitement raison. De tous bords, ce sont eux mes véritables adversaires, à gauche comme à droite, ceux qui étouffrent notre pays. Ce ne sont pas les Français ni leur liberté, ce sont ces petits bolcheviks gris qui régulent, réglementent, interdisent et répriment en continu la liberté, Apolline, avant tout. Et vous verrez, elle construit, elle élève et elle est aussi sa propre récompense.
Merci Louis Sarkozy. Pour améliorer la sécurité routière, eh ben, simplifions, voire supprimons la signalisation. Proposition très osée ce matin de Louis Sarkozy, la voix de droite d'RMC. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h. Et c'est une information à RMC, le dispositif. Un médecin près de chez vous, vous vous souvenez? Grande promesse, tout petit effet, voire même pas d'effet du tout, parce que voilà, ça fait 3 mois et ça fait flop. Il n'y a que 250 médecins volontaires aujourd'hui dans toute la France. Reportage dès le début du journal. Du côté de la météo, vous allez voir, c'est assez gris. Et juste après le journal, il y aura aussi Emmanuel Le Chypre, l'économie. Emmanuel, le conseil des prélèvements obligatoires veut taxer l'épargne des Français, manquait plus que ça.
Oui, parce que les Français, ils peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir une épargne non risquée, qui rapporte et qui est peu taxée.
Merci Emmanuel, vous nous le dites dans un instant, 7h56, n'oubliez pas, vous pouvez toujours envoyer Noël au 7-32-16 et on vous couvre de cadeaux. Noël au 7-32-16 pour ouvrir le calendrier de l'Avent. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.